Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Bonjour, je suis face à Pierre Auger. Pierre, j'ai du mal à te définir. En première approximation, j'ai envie de dire que tu es un biologiste. En deuxième approximation, que tu es mathématicien. En troisième, tu vas me dire que tu es physicien. Tu es en tout cas un scientifique un peu atypique. Est-ce que tu es d'accord avec ce commentaire ?
Oui, je crois que c'est vrai. Je suis un scientifique un peu atypique. Je suis dans le domaine, en fait, de la biologie mathématique ou de la biologie théorique aussi. Mais oui, je ne suis pas biologiste et je ne suis pas non plus vraiment mathématicien. Ma formation au départ, c'est la physique et plus précisément la physique nucléaire. J'ai fait une thèse de troisième cycle dans le domaine de la physique des ions lourds.
Il y a peut-être un mot qu'on peut employer en ce qui te concerne, c'est écologie. Est-ce que tu acceptes ce mot ? Quand on dit mathématiques et biologie, les gens se demandent quel rapport entre les deux. Donc, je pense que tu t'intéresses de près aux mathématiques qui sont derrière les évolutions d'espèces qui sont en compétition, en soutien.
En écologie, on mentionne en général trois niveaux d'organisation, qui sont le niveau individu, le niveau de la population et le niveau de la communauté. Par exemple, une communauté, proie prédateur, ou bien encore l'écosystème, donc un ensemble d'espèces en interaction. Et je me suis beaucoup intéressé à la modélisation des systèmes écologiques, effectivement.
Alors, si on commence par la première étape, c'est-à-dire des individus, là, on a des équations relativement simples qui disent comment la population N plus 1 dépend de la population N. Et dans ce cas, on a le plus souvent des choses qui enthousiasment les mathématiciens, mais qui sont assez déconnectées du réel.
Quand on s'intéresse au niveau de l'individu, pour moi, c'est plutôt des modèles de type théorie des jeux, c'est-à-dire des modèles où les individus rencontrent d'autres individus, par exemple à l'échelle quotidienne, et rentrent en conflit avec ces individus.
Y compris de la même espèce.
Bien sûr, y compris de la même espèce. Donc, tu as un modèle très connu qui s'appelle le modèle Faucon-Colombe. Bon, il y a eu beaucoup de variantes ensuite qui ont été développées. Et donc là, on s'intéresse à l'agressivité entre les individus. Donc, il y a des gains, il y a des coûts à être agressif. Et donc, après, il y a une espèce de bilan qui est fait avec cette théorie des jeux. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le couplage avec les modèles de communauté. Donc, on a fait, par exemple, des modèles dans lesquels on avait des modèles classiques proie prédateurs, dans lesquels les prédateurs avaient des comportements agressifs entre eux pour se disputer les proies qu'ils avaient attrapées. Et donc, ce qu'on cherchait à trouver dans cette modélisation, c'est quels sont les effets des comportements qu'adoptent les individus, quelles sont les répercussions au niveau de la structure des communautés, tu vois, au niveau de la structure de la population elle-même. Est-ce que c'est bon pour la population ? À quel niveau ? Voilà, c'est ce genre de questions auxquelles on essaie de répondre.
Tu n'es pas un mathématicien déconnecté du réel. Tu as passé longtemps en Afrique, en particulier au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal, mais aussi dans d'autres endroits. Et tu as eu l'occasion, tu pourrais nous en parler, de discuter de politique de pêche avec un point de vue pas de mathématicien, mais de spécialiste de la biologie sur ces questions. Tu pourrais nous décrire un peu comment ça a marché, ce travail ?
Oui, alors déjà, peut-être redonner quelques informations sur le contexte. J'ai fait une grande partie de ma carrière en tant que professeur d'université à Lyon. Et à 50 ans, je suis parti faire de la recherche à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement. Et donc, c'est dans ce cadre-là, bien sûr, que j'ai été amené à développer des modélisations mathématiques sur des cas très, je dirais, des cas concrets, des cas qui intéressent vraiment le développement. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai été envoyé en affectation. Et j'ai passé 4 ans au Maroc, à l'université Kadiayat de Marrakech, et ensuite 5 ans au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et Et là, dans ce contexte-là, j'ai travaillé sur des problèmes qui étaient très importants pour nos collègues africains, qui étaient les problèmes de pêche. Notamment, c'est très important évidemment au Maroc, et également au Sénégal. Bon, il y a une façade atlantique très importante au Maroc. Ça représente une part du PIB très importante pour le Sénégal et pour le Maroc. Et donc, c'est aussi un problème de sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de gens qui vivent des produits de la pêche dans ces pays.
Il y a beaucoup d'espèces de poissons et qui sont en interaction. Il y a des gros poissons qui mangent les petits, etc. Et toutes ces espèces interagissent. Et puis, les pêcheurs arrivent et puis ils pêchent tel poisson et pas tel autre. Et donc, on est en train de rompre une espèce d'équilibre, au moins de dynamique. Et la question que tu devais régler, si j'ai bien compris, c'est quel poisson on pêche avec quel quota.
Alors d'abord, quand j'étais au Maroc, c'était plutôt la sardine, parce que la sardine est une espèce pêchée très importante donc au Maroc. Donc j'ai travaillé sur la sardine avec des collègues de l'INRH. L'INRH, c'est l'équivalent de l'IFREMER, si tu veux. C'est l'Institut National de Recherche Halieutique du Maroc. Donc, eux, ils avaient des données. Donc, on a fait des modèles avec eux pour essayer de reproduire un peu les données qu'ils avaient sur les stocks. Les sardines, il n'y a pas tellement de problème de surpêche. Par contre, quand je suis arrivé au Sénégal, il y avait un véritable problème pour une espèce qui s'appelle le tiof. Donc, ce n'est pas le nom scientifique, hein, mais elle est communément appelée le tiof, qui est une espèce emblématique au Sénégal, qui est une espèce de mérou. Donc, c'est un poisson qui peut devenir très gros, qui est très prisé dans les restaurants. Bon, en général, les gens veulent manger du tiof. Hein, c'est un poisson qui est excellent. Et quand je suis arrivé au Sénégal, les collègues sénégalais, alors là, c'est avec le Centre de recherche océanographique de Dakar, Tiaroy, et les collègues de l'IRD, parce qu'il y a aussi pas mal de collègues de l'IRD qui étaient déjà sur place, affectés à Dakar. Ils m'ont parlé donc de ce tiof qui était surpêché, c'est-à-dire que partout, dans tous les principaux ports de pêche du Sénégal, les captures s'effondraient, et en même temps, il y avait une envolée des prix, mais vraiment relativement importante, et particulièrement pour cette espèce-là, pas trop pour les autres espèces pêchées. Le cahier des charges était un peu « il faudrait que tu fasses de la modélisation mathématique » et il faut que tu mettes dans tes modèles l'aspect économique, c'est-à-dire le prix. Comment varie le prix sous l'effet de l'offre et de la demande pour cet espace principalement. Mais les modèles qu'on a faits, quelque part, sont un peu génériques, si tu veux.
Donc, cette surpêche de ce poisson spécifique ne s'accompagnait pas de diminution de la population de telle ou telle autre espèce.
Alors, pas directement. Il y a eu, alors je me souviens qu'on a discuté pas mal, on a fait d'ailleurs un papier avec un collègue de l'IRD, sur le fait qu'il y a eu une recrudescence quand ça s'appelle des petites pieuvres qui se sont mises à se développer beaucoup. Et on pense que, en fait, cette petite pieuvre était un compétiteur avec le tiof. Et donc, en surpêchant le tiof, finalement, on a favorisé l'essor de ces poulpes, du poulpe, en fait. Hein. Et donc, ça peut effectivement arriver. Il y a des cas qui sont assez connus, hein, où effectivement, l'écosystème peut être complètement déstabilisé parce que l'homme a surpêché une espèce. Et donc, elle favorise, en fait, un réseau trophique parallèle qui, normalement, aurait été minoritaire et qui devient majoritaire avec d'autres espèces qui, à ce moment-là, envahissent le milieu marin, quoi.
Donc là, tu t'es intéressé spécifiquement à ce...
À ce tiof, oui. Au Sénégal, tout particulièrement, parce qu'on avait un certain nombre de données et parce que localement, sur place, les collègues sénégalais et de l'IRD s'intéressaient beaucoup à cette espèce qui était une espèce qui était très abondante, hein, faut le savoir, au Sénégal, à l'origine. Elle était même utilisée couramment pour le repas traditionnel qu'est le tchéboudienne.
Bienvenue dans notre cuisine. On s'attaque à un pilier de la gastronomie de mon pays, le plat national du Sénégal, j'ai nommé le tchéboudienne. Ce plat, créé au 19e siècle à Saint-Louis par une dénommée Pendambay, est devenu un symbole de la cuisine sénégalaise. Bon appétit à tous.
Ça, c'est le poisson avec du riz et des légumes. Et donc, c'était tellement abondant qu'on l'utilisait tous les jours. Hein. Et elle était devenue extrêmement rare quand je suis arrivé au Sénégal, avec surtout des prix qui s'envolaient sur le marché.
Ta requête, c'était de gérer la quantité de poissons pêchés pour qu'elle ne soit pas trop chère ou... Quel était le but, la chose qu'il fallait optimiser?
Le but, c'est, oui, d'aller vers des quotas, d'aller vers des recommandations pour les pêcheurs, c'est-à-dire de donner des indications pour éviter justement de continuer dans cette situation qui devenait quand même assez catastrophique de surpêche avec envolée de prix en plus et qui menace d'une certaine manière la sécurité alimentaire pour les Sénégalais. Hein. J'ai regardé la littérature en arrivant, je me suis aperçu qu'il y avait extrêmement peu de modélisateurs qui avaient pris en compte l'aspect économique, c'est-à-dire l'aspect offre et demande. L'offre, c'est la capture, si tu veux. Tous les jours, il y a des captures, donc ça, c'est l'offre. Et puis, il y a une demande sur le marché. Il y avait très peu de modèles qui... Il y a beaucoup de modèles de pêche qui existaient déjà, mais il y avait très peu de modèles qui prenaient aussi en compte la variation du prix sous l'effet de l'offre et de la demande. Donc, on s'est lancé là-dessus. Il y avait quelques collègues au Maroc, avec qui j'ai d'ailleurs travaillé auparavant, qui avaient commencé un peu là-dessus. Et j'ai retrouvé un papier très ancien des années 80 sur des collègues au Canada qui avaient fait aussi un modèle qui dépendait de l'offre et de la demande, mais qui n'avaient pas du tout fait d'analyse mathématique des modèles. Ils avaient simplement, je dirais, c'est un modèle assez compliqué, fait des simulations, ils l'avaient exploré numériquement, si tu veux. Mais il n'y avait pas de vrais résultats sur ce genre de modèle.
Je repose ma question. Est-ce que le but, c'était de faire en sorte que les Sénégalais mangent le mieux possible avec la meilleure quantité possible de poissons, ou le but pourrait être que les pêcheurs soient les plus riches possibles, ou quelle était la chose qu'on essayait d'optimiser? Est-ce qu'il s'agissait d'assurer économiquement la vie des pêcheurs ou d'assurer d'un point de vue santé, en quelque sorte, une quantité suffisante de poissons pour nourrir les Sénégalais?
Les deux objectifs sont liés, hein, en fait. Je pense que ce qu'on recherche en général, c'est d'avoir une activité de pêche qui soit durable, qui permette de maintenir le stock loin de l'extinction, donc à un niveau suffisamment élevé, je dirais, pour éviter tout risque d'extinction, et qui permette en même temps à des pêcheurs de vivre, parce que c'est une activité économique importante. Il y a de nombreuses familles au Sénégal qui sont dans ce domaine-là, enfin qui travaillent et qui vivent de la pêche. Donc c'est très important de maintenir ce secteur économique. Et en même temps, bien sûr, le but, c'est aussi de pouvoir nourrir la population avec un poisson abondant à un prix. Tout ça, c'est un peu un vœu pieux. C'est pas aussi facile que ça, c'est assez compliqué. Et déjà, on a voulu essayer de comprendre à travers ces modèles, on met un certain nombre de mécanismes dans ces modèles qu'on suppose, par exemple l'offre et la demande, avec des fonctions demande qui dépendent du prix. Elles peuvent être de différentes natures, ça peut être des fonctions linéaires, c'est-à-dire une fonction demande qui décroît avec le prix. Ça, c'est normal qu'elle décroisse avec le prix, mais elle peut être linéaire, non linéaire, et ça a des effets sur les sorties des modèles qui sont très différents.
Mais les économistes ont certainement largement étudié cette question offre et demande.
Oui, mais les modèles dynamiques de pêche, avec des aspects économiques, donc offre et demande au niveau du prix, il y avait très peu de choses qui avaient été faites. Très, très peu de choses. Et on s'est aperçu notamment que quand tu as... parce que tu peux avoir une fonction demande qui est linéaire. Ça veut dire qu'elle décroît et au bout d'un certain prix, pour un certain prix, elle deviendrait négative, donc elle est zéro. Ça veut dire qu'au-delà d'un certain prix, il n'y a plus de demande. C'est-à-dire que si c'est trop cher, personne ne va acheter. Mais ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans la réalité, tu t'aperçois que même si le prix devient très élevé, tu as quand même toujours une demande résiduelle. Il y a eu des exemples, par exemple, de ventes aux enchères de grand thon au Japon, où un poisson a été vendu jusqu'à 1 million de dollars. Il y a eu, en 2019, je crois que ça a été jusqu'à 3 millions de dollars. Ça veut dire que même pour des prix très élevés, pour certaines espèces qui sont très prisées, si tu veux, très recherchées, il y a quand même une demande résiduelle.
Ce que je comprends mal, c'est le rapport avec les poissons, parce que cette question se pose dans des tas de situations économiques différentes. Par exemple, tu me parles de ce poisson au Japon qui coûte des fortunes, mais il y a aussi ces exemples historiques de l'oignon de tulipe, sauf erreur, qui, au XVIe siècle, s'était vendu des fortunes gigantesques. On est un peu dans le même genre de problématique.
Alors, c'est ce que je disais, oui, je pense que ces modèles ont une certaine valeur d'universalité, tu vois. C'est pas seulement pour le tiof. Ces modèles-là, c'est des modèles de dynamique des populations, donc il y a une composante qui décrit la croissance des populations, du stock de poissons, comment ils se développent, les natalités, les mortalités, la pêche. Et puis, tu as aussi l'aspect économique qu'on rajoute aussi dans le modèle. Pour des pêches, pas seulement, bien sûr, du tiof au Sénégal, pour des pêches un peu partout dans le monde, et tu peux même peut-être aussi l'appliquer dans le cadre de la gestion des ressources renouvelables. Tu vois, il y a plein de ressources renouvelables, les forêts, par exemple. Et donc, ce genre de modèle a vocation à s'appliquer à pas mal de domaines, oui.
Alors, tu te retrouves au Sénégal, tu contemples ce problème, prends ton crayon, des feuilles de papier, et puis tu fais quelques modèles, et puis tu as des données, donc tu sais combien de poissons sont pêchés, des choses comme ça. Et ensuite, tu en déduis des conseils de quotas.
Je n'ai pas contribué à déterminer des quotas, hein. Plutôt des recommandations. Bon, par exemple, quand tu as une fonction demande qui est non linéaire, c'est-à-dire pour tout prix, tu peux avoir une demande résiduelle, on peut montrer que ça peut conduire à des situations qu'on appelle catastrophiques, c'est-à-dire qu'en fait, les pêcheurs vont pêcher jusqu'au dernier poisson avec un effort de pêche qui reste élevé, même si les captures s'effondrent Pourquoi ? Parce que le prix ne fait qu'augmenter. Et ce qu'on appelle la valeur de débarquement, c'est-à-dire le prix que multiplie la capture, reste à peu près constant, si tu veux, et même peut-être encore un peu augmenté. Et donc ça peut provoquer, c'est un mécanisme, si tu veux, qu'on met en évidence à travers des modèles quand même mathématiques, hein, et qui t'explique qu'on peut imaginer des situations où les pêcheurs vont aller pêcher jusqu'au bout, jusqu'au dernier poisson, si tu veux. Et donc, comment éviter ça ? Alors, on a beaucoup travaillé sur, disons, les méthodes, qui sont des méthodes d'ailleurs assez classiques, hein. Comment réparer, si tu veux, les écosystèmes marins, comment éviter ces problèmes. Alors, il y a des outils qui sont bien connus, comme les aires marines protégées, les réserves, les récifs artificiels qu'on peut déposer au fond de la mer, qui attirent les poissons, qui les protègent, qui augmentent la productivité des pêcheries. Enfin, il y a beaucoup d'outils. On a beaucoup travaillé avec mes collègues, y compris de l'IRD, hein, qui sont pour la plupart des halieutes, hein, qui ne sont pas des modélisateurs, hein, à faire des modèles donc avec des prix variables et avec des réserves, avec des, voilà, etc. Enfin, tout.
Fin de l'histoire ou la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as dû, je pense, communiquer ce genre de recommandations, on peut dire, à des décideurs, à des hommes ou des hommes politiques au Sénégal, ou en tout cas, tu as dû faire des recommandations officielles. D'abord, est-ce qu'elles ont été prises en compte ? Et comment s'est passée ton interaction à toi avec ces décideurs ?
Alors, je n'ai pas eu vraiment d'interaction avec les décideurs. J'ai eu des interactions avec des halieutes, qui sont plutôt des biologistes, hein, des biologistes marins, qui travaillent au centre de recherche océanographique de Dakar. Donc, c'est eux qui détiennent les données, par exemple sur le Tchouf, c'est eux qui nous fournissaient des données. Et les recommandations, c'est plutôt eux qui les donnent, si tu veux. Parce que c'est un peu comme en France, c'est pas les gens qui font les modèles de pêche, il y en a pas mal de gens qui font les modèles de pêche. C'est quand même, il y a des commissions spéciales à l'Ifremer qui vont décider un peu la politique en termes de quotas.
Est-ce que ces recommandations ont été finalement prises en compte ? Je pose la question un peu grossièrement. Est-ce que ton travail a été utile ?
Alors écoute, j'espère qu'il est utile. C'est pas trop à moi de me décerner. J'espère qu'il est utile. Je pense de toute manière que c'est très important pour moi. Hein. C'est, de toute façon, les modèles mathématiques sont des outils d'aide à la décision qui sont très importants. Et par exemple, cette dynamique couplée économique et écologique, en fait, hein, avec la pêche, ça donne beaucoup d'informations sur ce qu'il faudrait éviter de faire. Je pense que c'est un caractère assez générique et que c'est quand même très utile, enfin, à mon avis.
Est-ce qu'il était important pour toi d'être physiquement au Maroc ou au Sénégal pour faire ce travail ? Ou est-ce que tu aurais pu le faire aussi bien depuis chez toi sur ton ordinateur ?
Je pense que c'était très important d'être au Maroc, et alors pour le Tchouf, pour le coup, là, vraiment au Sénégal.
C'est-à-dire que tu rencontrais des pêcheurs, des hommes du métier, tu avais besoin de ce contact ?
Oui, j'allais tous les jours au laboratoire. Bon, c'est un laboratoire de mathématiques informatiques, mais je rencontrais aussi pas mal de collègues de l'IRD. Certains étaient dans le même laboratoire que moi, d'ailleurs. Certains faisaient des modèles, d'autres sont plutôt des biologistes marins. Je déjeunais avec eux et avec les collègues sénégalais. Je pense que c'est très important, ce contact.
Et vous mangez du poisson, j'espère ?
Oui, parce que tu sais que le tiboudienne est un plat, bien sûr, donc traditionnel. Et donc, on mangeait... Alors, il y a sa poulet aussi, hein, il y a d'autres plats.
Vous pouvez utiliser le poisson à chair blanche de votre choix. Et si vous avez la chance d'avoir accès à du barracuda ou à du tchouf, ce sera encore mieux. Par contre, je vous en supplie, oubliez le poisson d'élevage. Une fois le poisson nettoyé, c'est-à-dire lavé, vidé, écaillé, nous allons passer au roc pour le farcir.
Il n'empêche que donc tu as passé quelques années en Afrique.
Oui.
C'est une expérience que tu aimes, quoi.
Oui, beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé une partie de ma carrière comme professeur d'université à Lyon. Bon, j'avais des actions intégrées avec le Maroc, donc j'avais déjà commencé à voyager un peu et à travailler un peu au Maroc. Mais vraiment, l'IRD, ma carrière à l'IRD a été très positive. Et j'ai beaucoup aimé, oui, les expatriations que j'ai passées donc, au Maroc et au Sénégal. Je pense que c'est très important de vivre dans un pays, de côtoyer les personnes tous les jours. Et tu te rends beaucoup mieux compte aussi des difficultés qu'ils rencontrent sur place pour faire de la recherche. Tu vois, on a parfois discuté de recruter des associés étrangers africains, par exemple, à l'Académie des sciences. Bon,
du niveau des Anglais ou des Canadiens.
Voilà, des Canadiens, des Américains, des prix Nobel, quoi, qu'on a l'habitude de recruter ici. Bon. Mais quand on est sur place, on se rend compte aussi des difficultés qu'ils rencontrent dans leur carrière et on comprend un peu aussi pourquoi il y a un peu un décalage et dans une certaine mesure qu'on devrait peut-être quand même en tenir compte, quoi, d'une certaine manière, quoi.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.